exorbitante. Il faut donner quelques chiffres tout de même, hein, quand même, juste pour avoir, pour que les gens aient des repères et puissent faire des comparaisons. Le taux de rémunération normal du capital dans une économie. Mais Dixit, la théorie économique la plus standard, je veux dire la moins folle dingue, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est quelques pourcents. Avant la crise, les taux d'intérêt, c'était 3-4%. Vous rajoutez une petite prime de risque, parce que quand même, hein, voilà, bon, on rajoute de 3% supplémentaires. Tout ça nous fait dans les 7-8% à tout casser. C'est ça la rémunération normale du capital. Bon. Les grandes entreprises industrielles du CAC 40, et je parle des entreprises industrielles seulement, hein, je réserve la finance pour la bonne bouche, sortent des taux de rendement de leurs capitaux propres, qu'on appelle le ROE en termes techniques, comme Return on Equity, des taux de rendement des capitaux propres qui sont communément supérieurs à 15% et parfois même au-delà de 20%. Mais ceci n'est rien en comparaison de ce qui se mijote dans la tambouille de la finance. Les départements dits d'investment banking, de banque d'investissement, où se concentrent toutes les activités de marché, crachent communément des taux de rendement des capitaux propres qui sont de l'ordre de 40% et parfois même bien davantage. Donc vous voyez l'écart abyssal entre la rémunération normale du capital, taux d'intérêt plus prime de risque, 7-8%, et ce que crache la finance de marché, 40%. Mais c'est un petit paradis qu'ils se battront jusqu'à la dernière goutte de sang pour préserver. Et c'est là qu'il faut, il faut bien voir ça. Hein. Je veux dire, il y a une économie politique de la financiarisation dont un des aspects tient à l'interpénétration, pour ne pas dire la confusion organique, des élites politiques et des élites financières. Alors en France, c'est particulièrement gratiné. Hein. Le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, c'est Michel Pébrot, président non exécutif de BNP Paribas, qui n'a pas vraiment l'intention de céder quoi que ce soit sur les agréments de la finance de marché. Je veux dire, que peut-il sortir d'un cabinet élyséen qui est sous emprise d'un banquier en chef? Je pose la question. Il y a le cas...
Sous l'emprise, pour
oui,
vous.
Sous l'emprise, absolument. Il y a le cas encore plus remarquable, alors celui-là, il est croustillant, de François Pérolle. Alors, écoutez, vous allez voir le bestiau, la trajectoire est impressionnante. François Pérolle est un énarque, inspecteur des finances, tout qui va bien, ses papiers sont en règle. Il fait directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Économie et des Finances en 2004-2005. Et il quitte le cabinet du ministère des Finances pour devenir associé gérant chez Rothschild et compagnie, où il supervise la fabrication de cet ensemble qui fait notre gloire nationale, qui s'appelle Natixis, qui est à peu près champion de France dans la compétition bouillon sur les subprimes, toutes catégories. Puis, il met sur les rails le rapprochement de la Caisse d'épargne et de la Banque populaire, qui va s'avérer également un grand succès populaire. Il quitte Rothschild et compagnie pour prendre le poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée, où il va piloter littéralement, hein, en compagnie de Michel Pébrot, qui lui est externe au cabinet, il va piloter les plans de secours au système bancaire français. Et il va quitter l'Élysée, c'était cette année même, pour prendre la tête de l'ensemble Caisse d'épargne Banque populaire, dont il a été l'ingénieur privé chez Rothschild, puis l'ingénieur public au secrétariat général adjoint de l'Élysée. Donc là, l'interpénétration est totale. Alors, c'était un nanar du commentaire éditorial et de la chronique de haut vol dans les médias de dénoncer cet état de fait comme une épouvantable idiosyncrasie française. C'est, oh là là, c'est les relations incestueuses de l'État et des entreprises. C'est l'État qui met son nez partout, toujours. C'est vraiment, si on regardait du côté des États-Unis, là où le capitalisme est pur, libre et privé. Oui, mais M. Mermet, c'est qu'on s'est aperçu qu'aux États-Unis, c'était pire encore. C'est-à-dire que dans le temple du capitalisme privé pur et tout ce que vous voulez, les patrons de Goldman Sachs, la plus grande banque d'investissement américaine, se succèdent à la tête du secrétariat au trésor, l'équivalent fonctionnel du ministère de l'économie et des finances, et pour y faire la politique de leurs intérêts passés et futurs. Alors là aussi, il faudrait citer des noms. Ça passe toujours, ça s'incarne dans des personnes, hein, ça, dont la trajectoire est remarquable, et parce que remarquable peut être désingularisé pour en tirer des enseignements généraux. Alors par exemple, Bob Rubin. Bob Rubin a été président de Goldman Sachs dans les années 80. Et il rentre dans l'administration Clinton dans les années 90, où il va être l'un des suppôts les plus acharnés de la déréglementation des marchés de dérivés, et notamment des dérivés de crédit. Ceux-là même qui se sont écroulés à partir de 2007. il quitte l'administration Clinton, où il a rempli son office de dérégulateur en chef,